Bonjour à tous, bienvenue dans le 11e numéro de Sans Langue de Bois, votre émission politique sur les ondes de Transistor et...
Joyeux Noël!
Les vacances bien entamées, vous voilà, votre ordinateur sur les genoux, blotti au pied du sapin ou dans un bon fauteuil, ce qui est tout de même plus confortable, près d'un bon feu de cheminée si possible, en tous les cas, à nous écouter sur Transistor. Hier, vous vous demandiez qui était l'oie ou le canard que l'on gavait entre vous et cette tranche si appétissante dans votre assiette, qui s'accompagne si bien d'un bon sauterne ou d'un petit loupiac. Aujourd'hui, vous digérez et vous n'avez pas très envie qu'une bande de rababuches pâtissières et autres casse-boules de Noël radiophonique vous escagasse avec leurs histoires de politique, leurs thèmes emmerdants style rapport Jospin ou fiasco à l'UMP. Non, niveau ambiance, vous n'avez pas vraiment envie d'inviter le vieux mouton de l'île de Ré et les pipeaux et Mario de la droite républicaine à votre table le lendemain des fêtes. Sans parler du fait qu'il pourrait même leur prendre l'idée farfelue à ces inconvenants transhistoriens, dont la langue n'est ni en bois ni dans la poche, de bien pourrir vos vacances, oui, dévolues au ski, à l'ouverture des paquets cadeaux et aux révisions, surtout pour les agrégatifs, et j'en ai deux spécimens autour de la table, pour qui vacances est un bien grand mot, voire un bien gros mot. Oui, pourrir vos vacances avec un de leurs sujets dramatiques, en mode enquête sur les violences faites aux femmes. Et puis quoi encore? Oui, l'esprit de Noël en prendrait un sacré coup. Mais pas du tout, pas full caribou, je m'adapte, et plutôt qu'un bon vieux débat façon parole de militant sur la zone euro avec un jeune du front de gauche exprimant contre un jeune du front national, avec en plus un jeune stagiaire de la Commission européenne et un militant de Corinne Lepage, s'il en reste. Et la pauvre Tatiana, au milieu, non, je vous propose de jouer. Un jeu, ça fait vacances, et puis c'est assez léger pour faire passer la dinde, les marrons et le petit ballotin de haricots enroulés de lard. Comme le pendu, c'est pas très radiophonique, et qu'un Scrabble, c'est vraiment ennuyant, je me suis dit que nous pourrions jouer avec l'actualité politique de ces dernières semaines, et plus largement de l'année 2012, qui arrive bientôt à son terme. Et pour cela, j'ai réuni une belle bande de lutins que je vous présente.
Oui !
Pour présenter la première lutine qui vient de s'exprimer, je vais faire comme elle.
Oh, on va bien se marrer.
Je vais faire comme elle en ouverture de ces émissions. Je vais prendre une petite citation. Thomas Tusser disait « À Noël, amusons-nous, profitons-en, car Noël, ce n'est qu'une fois par an. » Bonjour Tatiana.
Bonjour Thomas.
Prête à t'amuser ?
Absolument.
Alors juste à tes côtés, le Père Noël, qui veut de l'ordre dans son atelier pour travailler. Bonjour.
Bonjour Thomas, excuse-moi, j'ai pas compris que c'était le moment dont tu parlais.
C'était toi, oui. Alors juste à tes côtés, la mère Noël qui milite pour la syndicalisation des lutins et des reines, la passionnariat du Grand Nord, ça te va comme lancement Caroline ?
Nickel Thomas, tu perds rien pour attendre.
Enfin, pour compléter cette joyeuse bande, celui qui est ici chez lui, dont vous connaissez la voix et le ton inimitable, qu'il vous parle depuis Lyon ou Jérusalem, le plus espiègle des lutins, bonjour Amos.
Bonjour Thomas.
Bon alors, Amos, Louis, Tatiana et Caroline, on est au complet, prêts pour une dose de bonne humeur, l'espace d'un jingle de circonstances, et nous jouons avec l'actualité politique. Alors, autour de la table, prêt à jouer ?
Oui !
Alors, c'est parti. Première question. Première question.
Pardon.
Et la réponse n'est pas oui. Faux. Pourquoi a-t-on beaucoup parlé en cette fin d'année du doyen Gélard ?
Tatiana, tu dois savoir ça, non ?
Alors, ils sont très bons, les étudiants là, qui préparent l'agrégation. Tout de suite, on se retourne vers Tatiana. Tu dois bien connaître ça.
Et alors, Tatiana ? Tu connais ?
Eh bien, je pense qu'Amos, depuis tout à l'heure, est en train de me faire du
alors,
genou.
Alors, Amos, c'est qui
pour
doyen
que je lui laisse
Gélard,
la parole déjà.
Espèce de vieux vicieux qui fait du genou, Tatiana.
Enfin, n'est pas encore mort, mais je crois qu'il dirigeait la Coco-E, qui est l'ancêtre de la Connard. Soit
c'est
la
ça.
Commission.
Quel homme.
La
quel
commission homme. De l'UMP qui a oublié de compter les voix, car
c'est
pour
ça,
le doyen
ouais.
Gélard, étant donné qu'il vit encore.
Bon, alors, je commençais par une
bon
question
temps
facile. Vous avez compris.
Les dom-toms ne font pas partie de la France, enfin, il n'y a que la métropole qui compte pour le doyen Gélard.
Alors, on va pas aller jusque-là. Un mot, surtout que dans une interview qu'il a donnée au Nouvel Obs récemment, eh ben, il a émis des regrets. Il a dit « je m'en veux terriblement, j'aurais dû vérifier le nombre de votants » et il a continué « je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi je n'ai pas eu les résultats de ces trois départements, d'ailleurs il n'est pas le seul » et ces résultats, il dit, déjà dépouillés, ils étaient déjà dépouillés, poursuit-il, ils sont arrivés la veille, le samedi 17 novembre du coup, ils ont été transmis par boîte postale d'huissier aux services centraux de l'UMP et ce sont les services centraux qui remplissent les colonnes avec les résultats et en gros, c'est pas lui qui a foiré, c'est les services centraux, bien sûr. Alors le doyen Gélard, ils sont coupables, mais est-ce que cela aurait vraiment changé les choses si il avait pu bien compter les trois départements, parce qu'à côté de ça, il y avait des fraudes pas possibles. Finalement, fiasco total, grosse plantade à l'UMP.
Ah oui, complètement, oui.
Complètement, oui.
Non, le pire, c'est qu'ils arrivent à tenir cette histoire pendant des semaines et des semaines. Enfin, on en entend encore parler, malheureusement, pour nos oreilles et pour nos lectures hebdomadaires.
Grosse plantade. Ça, c'est le bug de l'année, Louis.
Oui, évidemment. Mais enfin, bon, de toute façon, on n'apprend pas grand-chose, si ce n'est que Copé et Fillon sont deux escrocs. Enfin, ça, je pense qu'on n'avait pas besoin d'élections, même internes, pour le savoir.
Alors, en tout cas, le fiasco des élections à la présidence de l'UMP, il a donné des idées aux journalistes de Libération qui, sur leur site internet, publiaient une vidéo revisitant le fameux lip-dub. Vous vous rappelez du lip-dub des jeunes de l'UMP ?
Tous ceux qui veulent changer de monde.
C'est ça. On l'écoute.
Mais pas du tout, regarde, tu la vois.
Le comportement de François Fillon, c'est l'histoire d'un mauvais perdant qui vient donner maintenant des leçons de morale sans jamais se les appliquer à lui-même.
Tous ceux qui veulent changer le monde.
Le changement, c'est maintenant.
La France a besoin d'une UMP qui soit une UMP qui représente l'éthique, qui représente la morale. Mon parti est aujourd'hui dans une situation qui est tellement difficile. J'ai parlé de fracture politique et de fracture morale. Oui, il y a une fracture politique et une fracture morale.
Au cœur de toute l'humanité.
Je ne peux pas accepter que François Fillon ou ses amis mettent en cause, parlent de fracture morale en ne se considérant jamais concernés par rien.
Une nouvelle société. Tous ceux qui veulent changer le monde.
Comment est-ce qu'on peut faire respecter les valeurs républicaines si on ne donne pas soi-même l'exemple?
On ne peut pas donner des leçons de morale à tout le monde en permanence et refuser de se les appliquer à soi-même.
Si les racines sont profondes.
Un parti politique, c'est pas une mafia.
Je vous avoue que je ne comprends plus rien. C'est des allers-retours permanents du côté de François Fillon. Moi, je ne comprends plus du tout ce qui se passe dans sa tête. Mais en plus, maintenant, ça s'ajoute à cela des termes insultants. Donc franchement, je crois que tout cela, c'est d'abord l'affaire de quelqu'un qui n'accepte pas sa défaite tellement il était persuadé de gagner à 80% du fait des sondages.
On ne peut pas continuer à travailler dans un contexte où on s'envoie des noms d'oiseaux de part et d'autre.
C'est que Jean-François Copé a appelé François Fillon. Ils ont échangé au téléphone. C'est inexact.
Ils ont été validés par la COCO, mais contre notre avis dans certains lieux.
Non, c'est pas vrai.
Ah ben oui. Il faut recoudre les fils.
Il faut absolument que les deux protagonistes de cette lamentable affaire se voient.
Je pense qu'il est temps de vite tourner la page pour assurer l'unité et le rassemblement de notre mouvement.
Alors plutôt réussi, non, cette façon de revisiter le lip-dub des militants de l'UMP par les journalistes de Libération, non ?
Un parti politique n'est pas une mafia, je pense que c'est vraiment ça la différence.
Moi j'aime beaucoup Jean-François Copé qui dit « je ne sais pas ce qui se passe dedans sa tête ». C'est très bien. Bon alors, deuxième question, peut-être un petit peu plus compliquée, c'était une mise en bouche. Qui a dit « vous êtes le chaînon manquant entre l'UMP et le PS » et à propos propos de qui cette personne a-t-elle eu cette citation?
Oh, ça serait bien la présidente du Front National au sujet de Manuel Valls.
Ouais, tout à fait.
Alors, je connais le classique,
la grande littérature, je veux dire, ça me connaît.
C'est toi qui l'as écrit, Louis?
Bah oui, forcément, c'est ses discours.
Alors, c'était mi-décembre sur le plateau de Des Paroles et des Actes sur France 2. C'est évidemment Manuel Valls qui a été l'invité de David Pujadas. Et il a débattu donc avec la présidente du Front National à ce propos. D'ailleurs, Marine Le Pen, elle a continué en disant « Vous avez la même argumentation que M. Copé, le phrasé de M. Hollande et l'argumentation de M. Copé. » Alors, qu'est-ce que vous retenez de ce débat, on va dire, plus sur le fond? Je me tourne vers toi, Tatiana, parce que je sais que tu l'as vu.
Oui, bon, je pense que, pour le coup, Manuel Valls s'est peut-être un peu laissé faire. Moi, je pense vraiment que Marine Le Pen a dominé le débat. Malheureusement, parce que c'était un sujet vraiment important d'actualité, les Français attendaient une réponse. Pour le coup, il y a eu de la langue de bois hein, des deux côtés, et je pense que c'est un bon retour aussi médiatique en cette fin d'année.
Et ça vous choque pas que pour débattre avec un ministre socialiste en exercice, ça soit qui qu'on demande de venir, qu'on fasse venir sur le plateau des Paroles et des Actes, non pas un membre de la droite républicaine, alors qu'il y en a à pléthore des gens qui auraient envie de venir défendre les couleurs de la droite, et de quelle droite? Non, c'est Marine Le Pen qui vient, et c'est elle qui endosse le costume de première opposante de France, première opposante.
Mais je pense que c'est tout l'intérêt du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste n'a pas du tout intérêt à présenter une occasion à l'UMP de s'unir contre la gauche. Au contraire, en faisant monter le Front National, d'abord, on divise la droite, on permet de se renforcer au détriment de l'UMP, et on affaiblit aussi Mélenchon, puisque les électorats entre le Front de Gauche et le Front National sont relativement poreux. Au contraire.
Ah, du bon vieux front contre front.
Comme tu l'aimes.
Ouais, c'est ça.
Amos ?
Oui, je voulais dire que ce débat a eu un mérite, c'est qu'il a permis de dévoiler un peu plus Manuel Valls, qui a été incapable de répondre à Marine Le Pen, selon moi, qui s'est totalement fait battre par Marine Le Pen dans ce débat. Mais ce qui est finalement assez logique, parce que Manuel Valls, malheureusement, ne me semble pas avoir des positions si fermement différentes de celles de Marine Le Pen. Et la seule personne qui, dans un débat, avait vraiment tenu tête à Marine Le Pen, au point de lui faire fermer son petit clapet, c'était Jean-Luc Mélenchon qui était capable de lui répondre « Eh bien, excusez-moi, les virus n'ont pas de passeport, les hommes et les femmes sont bienvenus en France, quelle que soit leur origine, et cela est la vraie différence entre nous. »
Oui, elle avait refusé de débattre, donc...
Il n'y aurait pas de débat, donc à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Alors, on vient de parler pas mal de la droite là, sur ces deux premières questions, assez faciles hein, tout de même, c'est pour l'introduction. Maintenant, une petite question à propos d'une ministre de gauche, maintenant. On l'écoute en juin dernier en plein lapsus.
Je crois que la volonté de la France en la matière est claire et n'a pas besoin d'être précisée. Il s'agit en effet de permettre la recapitalisation des banques françaises.
Vous l'avez reconnu.
Najat Vallaud-Belkacem et la recapitalisation.
Des banques françaises. Alors évidemment, c'est pas de ça dont elle voulait parler. C'était en juin dernier en conférence de presse, elle qui est la porte-parole du gouvernement.
Et ministre du droit des femmes aussi.
Oui, mais c'était au titre de porte-parole qu'elle agissait ici. Alors rappelez-vous, on est au tout début du mandat de François Hollande. Et alors que l'on parle de renégocier le pacte de stabilité budgétaire, un pays européen appelle à l'aide devant la situation de son système bancaire. De qui s'agit-il? Quelles sont les banques? De quel pays il faut sauver les banques en juin dernier?
L'Espagne,
oui. Oui, c'est l'Espagne, tout à fait. Ouais.
Il y en a tellement désormais qu'on ne sait plus trop lequel choisir.
C'est ça, oui, entre la Grèce, l'Italie, ben non, c'était l'Espagne.
C'est certainement parce que les politiques d'austérité doivent tellement bien marcher que finalement...
C'est ça, c'est le contre-coup. Alors, elle a ce mérite, au moins Najat Vallaud-Belkacem, dans cet extrait qu'on va écouter maintenant en entier, c'est qu'elle arrive à nous faire rire sur un sujet assez anxiogène et surtout qu'on croyait ennuyeux à mourir. Aussi amusant qu'une pierre tombale, c'est-à-dire ben, l'économie et la situation de la zone euro. On l'écoute.
Qu'est-ce que ça change dans l'approche française de la question? Est-ce que ça veut dire que vous allez essayer de précipiter le mouvement, d'avancer plus vite vers ce sauvetage des banques espagnoles et comment?
Je crois que la volonté de la France en la matière est claire et n'a pas besoin d'être précisée. Il s'agit en effet de permettre la recapitalisation des banques françaises par le mécanisme des banques espagnoles, bien sûr, vous avez bien noté, par le mécanisme européen de stabilité.
Alors, on entendait à l'instant le charmant petit rire de Najat Vallaud-Belkacem qui t'a particulièrement plu, Caroline?
Ah ouais, moi j'adore les porte-paroles féminines, ça me fait penser à la divine égérie de Nicolas Sarkozy. Je trouve que vraiment elles remplissent leur rôle de petites femmes d'apparat avec vraiment beaucoup de tact et de grandeur.
Je trouve bien injuste quand même envers le ministre des droits des femmes. Là, vraiment, qu'as-tu lui reproché ? Elle a fait ses preuves comme politique.
En fait, t'es jalouse, c'est tout. Elle est belle, elle est compétente, elle a en plus un joli rire et toi, t'es jalouse, quoi.
Voilà, exactement.
Grosse rageuse. Là. Bon, alors, on entendait Najat Vallaud-Belkacem à l'instant. Elle était porte-parole de François Hollande, une des quatre, pendant la campagne présidentielle. On va remonter à ce moment-là, au moment du premier tour, où François Hollande arrivait en tête avec 28,63% des voix, devant Nicolas Sarkozy, 27,18%, puis venaient Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, respectivement 17,90% et 11,10% des suffrages exprimés. Alors on se rappelle très bien du haut du panier, si je puis dire comme ça. Mais vous rappelez-vous qui est arrivé septième
au fond de la fosse ? Nicolas Dupont-Aignan.
Oh, il a lu les réponses. Il a lu les réponses.
Non, Bref, c'est une longue histoire entre Debout la République et moi.
Oui, explique. Alors, il est arrivé 7e avec 1,79% des voix. J'ai même pas eu le temps de poser ma question. Ils sont forts quand même, mes chroniqueurs. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, effectivement, quelle histoire tu lis à Debout la République ?
Un meeting au Bataclan où il avait su enflammer la foule, capter un électorat
de 12 personnes.
Se présentant comme l'héritier du général de Gaulle, des supporters en délire, bon, une Marseillaise qui me rappela celle d'un 12 juillet 1998. Évidemment, je n'ai pas voté pour lui, mais j'ai suivi de près ses résultats.
Tu pourrais faire partie des 1,79% des voix. Alors, cette question, c'était surtout l'occasion de parler des petits candidats.
Petits
1,79%.
Je t'en prie, un peu de respect pour la République.
Oui, alors des candidats qui sont arrivés dans les places inférieures. Voilà, dans la République debout. Alors, Eva Joly, Philippe Poutou.
Ah oui, mais Eva Joly, mais ça a été un gros boycott. Enfin, vraiment, là, pour le coup, toute seule.
2,31% des voix.
Oui.
Alors, celui qui est arrivé dernier, c'est pas Eva Joly quand même. Hein.
C'est le grand, le merveilleux, le sublime, le martien, le merveilleux Jacques Cheminade.
Est-ce que quelqu'un est allé dans un de ses meetings déjà ? Est-ce qu'il a fait un meeting
non,
Jacques Cheminade ?
Non, il n'a fait que des web meetings. Jacques il a fait des Cheminade, web meetings. Donc il fallait les suivre en streaming.
Ça peut peut-être expliquer ces 0,25%.
Par contre, ils étaient sur les marchés. Hein. Moi, je les ai rencontrés, toujours très très agréables, fruits et légumes par les Jacques Cheminade. Ils étaient là, de la poissonnerie à la boucherie.
Tout ça pour dire qu'elle va au marché.
Comment s'appelait le parti de Jacques Cheminade ? Je m'en souviens pas.
Ah oui, c'était pas vraiment un parti qui le soutenait.
C'était un mouvement.
Comment ça s'appelait ?
Je ne sais pas. J'ai mal préparé l'émission, vois-tu.
C'était quoi ? Vous savez plus ?
Non, mais c'est vaguement une secte, non ? C'est comme les témoins de Jéhovah.
C'est autant une secte que le Front National. C'est un parti politique. Jacques Cheminade n'avait pas son papa qui dirigeait le parti au nom inconnu.
Les témoins de Jéhovah non plus, d'ailleurs.
Info à vérifier, mais il me semble qu'il y a un petit village dans les Vosges qui a voté à 70% pour Cheminade, quelque chose comme ça. C'est le record
ça fait
français.
Quoi,
le village de la fin du monde, j'imagine.
Non, c'est dans le sud-ouest, celui-là.
D'ailleurs, preuve que la fin du monde était une vaste blague, cette émission.
Vous nous entendez.
Voilà, vous nous entendez. Alors, on passe d'une élection présidentielle à une autre. 2012, c'était également synonyme d'élection et de réélection à la Maison-Blanche, puisque Barack Obama l'a emporté avec une nette avance.
Yes, we can.
Ouais. Même beaucoup plus que ce qu'on pensait dans les sondages et à écouter les commentateurs. Il l'a emporté évidemment devant le républicain Mitt Romney, qui a certainement perdu cette campagne à cause de problèmes de positionnement politique, tantôt au centre de l'échiquier, tantôt à l'extrême.
Mais être à droite, on est d'accord, c'est un vrai problème de positionnement politique, Thomas. Alors l'être autant, j'ose même pas imaginer ce que ça peut faire.
Alors les élections américaines ont passionné les médias français pendant des semaines, ce qui a permis au passage à de nombreux journalistes d'aller tout frais gratuit à New York, c'est quand même sympa. Pas d'être journaliste. Et sinon, on a vraiment tout suivi des élections présidentielles américaines. On a tout su. Mais est-ce que vous avez bien suivi, vous, les élections américaines ? Question insolite, question de détail. Quel mot a été le plus consulté en ligne pendant la présidentielle américaine ? Quel mot, à votre avis ? Vous n'êtes pas obligé de me le dire en anglais. Hein. Je sais qu'il y a des bilingues autour de la...
Hurricane ?
Non, ce n'était pas ça. Ça aurait pu avec Sandy, effectivement, qui a ravagé la côte ouest, mais
c'est pas guerre peut-être.
Non plus, c'était pas guerre, non. Un mot qui a marqué.
On va faire la
marqué.
Guerre en Irak. Ah, c'était une référence au Guignol.
Ah oui, tout à fait.
C'était déplorable.
Un mot donc en rap, enfin oui, qui a plus ou moins un rapport, c'est
plus
ça.
Plus ou moins,
sur,
vous allez voir, plus ou moins. Un mot qui a un rapport avec la politique.
C'est ça, une demande des citoyens qui
aurait
pu retrouver
citoyens
une peur des citoyens.
Ouais. Quelque chose qui a toujours fait peur aux citoyens américains.
La démocratie ?
Presque. Bon, on se rapproche.
Est-ce que c'est du rouge?
Ouais, c'est ça.
Communisme.
Presque, presque. Un peu moins rouge. Socialisme.
Oh, je suis bon, je suis bon.
Le mot socialisme.
Ah non, non, non,
il y a quelque chose.
Peut-être s'intéressait-il à François Hollande, tout simplement.
Eh bien, la question est posée.
Non, on a
en
dit
tout cas,
socialisme.
En tout cas, le mot socialisme.
Ah, c'était facile.
C'était celui qui arrivait en premier, suivi de près quand même par capitalisme. Il a été recherché donc sur des sites de recherche comme Google, Yahoo, etc. Et c'est le groupe Merriam-Webster qui nous donne cette indication.
Merci.
Et alors, socialisme, mot de la présidentielle américaine, retour de l'autre côté de l'Atlantique, quel est selon vous, et là je vous demande juste votre avis, il n'y a pas d'études sur le sujet, quel est le mot de la campagne présidentielle en France? Amos.
Halal.
Ouais. Tatiana.
Bon, enfin, changement bien sûr, mais...
Changement.
Ouais, changement.
Chômage. Oui.
Ouais, chômage, c'est pas mal. Hein.
Mmh, ouais, ah, c'est non, ma fibre sociale qui parle, je te coupe tout le pied.
Non, moi, un truc dans l'économie ou pareil, autour de socio-éco, donc chômage, austérité, quelque chose comme ça. Quoi.
Si aux États-Unis le socialisme, c'est un peu le diable, on l'aura compris, et c'est la grande peur qui a fait
nous,
taper
on a Marine Le Pen.
Socialisme Obama, je vois bien ça comme,
mal.
Comme recherche. Je vais vous faire une petite transition que n'aurait pas renié Claire Chazal. Si donc le socialisme aux États-Unis, c'est un peu le diable, nous allons maintenant parler de Dieu. J'assume. Qui a déclaré récemment, et là c'est dur, non seulement j'ai lu les évangiles, mais j'ai joué dans des films qui les racontaient. Je jouais Marie dans un grand drap bleu. Je devais
c'est
avoir
un homme, alors.
11-12 ans.
Ah là
c'est
là.
Un homme.
Alors, c'est pas un homme, non. Mais ça aurait été drôle.
Non seulement j'ai lu les évangiles.
Une femme politique.
Une femme politique.
Nadine Morano, bah oui.
Non, ce n'est pas Nadine Morano.
Mais c'est Christine
Est-ce que
Boutin,
c'est une femme
évidemment.
De gauche
alors, non.
Roselyne Bachelot.
C'est ça qui est drôle, c'est que c'est pas
c'est une,
Boutin,
femme,
c'est une
de
femme de gauche.
Ségolène Royal ah. Trop facile.
Ça aurait été facile, mais non. Pas Ségolène Royal.
Clémentine Autain.
Non.
Cécile Duflo, elle a lu
c'est
les évangiles.
C'est Cécile Duflo.
Eh oui, oui.
Mais trop
ouais.
Forte, Tatiana. C'est effectivement la ministre du Logement qui a soulevé la polémique en appelant l'Église au devoir de solidarité. Et du coup, elle a essayé de se justifier en disant bah non, ça me fait bien rire qu'on me dise catophobe ou anti-clérical et autres bouffes curées.
Catophobe.
Eh bien non, moi je suis une fille, je suis la fille d'une prof catho de gauche et j'ai milité dans les jeunesses ouvrières chrétiennes et ça me fait bien rire qu'on m'accuse d'anticléricalisme.
Sacré argument, hein.
Ouais, effectivement. Alors on parle de Cécile Duflo, en cette fin d'année c'est un peu le bazar du côté d'Europe Écologie Les Verts parce qu'on a tendance à dire...
Pas
oui,
seulement en cette fin d'année. Hein.
Oui, on a tendance à dire fiasco à l'UMP, j'ai envie de dire fiasco chez Les Verts.
Akon Bendit a quand même quitté le parti.
Voilà.
Les deux personnalités qui étaient
qui dirigent.
Les moteurs, c'était Nicolas Hulot et Akon Bendit. Sans eux, il n'y a plus grand monde. Enfin,
mais c'est sûr que...
Dominique Voynet fait rêver personne. Bon,
Eva Jolie est partie en Afghanistan.
Non.
C'est vrai, elle est de mission en Afghanistan. Bon alors pendant que Tatiana et Amos se touchent,
Noël
oui,
Mamère, Noël Mamère
qui
est quand même
qui a retiré,
dont la moustache continue d'hanter la vie
et dont,
politique
et dont la rumeur prédit un parachutage dans notre belle ville de Grenoble, peut-être pour les municipales, mais honnêtement,
bah bien.
À voir.
Et bien c'est sur cette prédiction qu'on va s'arrêter parce que mauvaise nouvelle les amis, j'ai plus de questions dans ma hotte. Alors notre émission touche à sa fin, merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de l'émission.
Joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Merci à Xavier, Will, Antoine et Fabien la technique. Encore une fois.
Joyeux Noël.
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances.
Louis, non, Louis doit le refaire parce que là vraiment depuis le début il résiste.
Ouais, je manquais un peu de notre. Joyeux Noël les amis.
Merci Louis.
Merci Louis.
Merci.
Alors un peu plus sérieux que cette émission, faut bien le dire. Vous pouvez également écouter cette semaine la première partie du bilan de l'année politique du grand journal politique de la rédaction de Transistor. Cette phrase est trop longue. Vous y retrouverez notamment Caroline et Tatiana. Alors rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 2 janvier 2013, pour la deuxième et dernière
bonne
partie
année,
du bilan politique. Bah ouais, du coup, bonne année.
Bonne année.
Bonne année en avance.
Passer de l'un à l'autre comme ça, c'est...
Bah ouais, c'est trop fou. Hein. Et donc, dans cette deuxième partie, on retrouvera notamment Tatiana et Amos. D'ici là, même avec la congélation d'un iceberg par ce temps glacial, surtout, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.
Mais peut-être qu'il fera beau à cette période-là.